Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Startup sur Cowork la radio. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je reçois le cofondateur et président CEO de Wiseear, Yacine Alchiak. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous allez bien?
Ah, très bien, merci.
En pleine forme?
Ah bah, il est un peu tôt, mais ça va aller.
Il est
dans,
un peu tôt.
5 minutes dès que le café est fini.
Oui, ouais, c'est ça. Finissez-le tranquillement. Bon, déjà, vous allez nous présenter votre startup. Quel est le métier, en fait, de Wiseear?
Donc, chez Wiseear, en fait, on développe une technologie qui permet aux utilisateurs d'avoir des contrôles, qu'on va dire, voiceless et touchless, de leurs écouteurs en fil. Alors, comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on place des petits capteurs sur vos écouteurs qui vont mesurer votre activité cérébrale et votre activité faciale. Et grâce à ça, vous allez pouvoir contrôler demain la musique, décrocher un appel, changer la musique, augmenter le son, sans avoir besoin ni de les toucher, ni de dire « Ok Google » ou « Hey Siri ».
D'accord, donc ça va être basé sur quoi en fait?
Ça va être basé sur votre activité du cerveau.
D'accord, en fait, c'est une lecture des pensées un petit peu.
Un peu. Alors aujourd'hui, c'est pas encore une lecture des pensées. Demain, ça le sera, ou en tout cas, ça sera le plus proche possible de ce qu'une lecture des pensées peut être quand elle est intégrée dans un écouteur sans fil. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on mesure, c'est votre activité neuronale. Concrètement, en gros, les petits capteurs qu'on va placer, c'est des électrodes. Et quand là, je parle, quand je pense, quand j'agis, quand je bouge, en fait, mon cerveau et mes muscles vont avoir une activité électrique qui est spécifique. Ouais. Et cette activité électrique, elle peut être lue et elle peut être interprétée par les petits capteurs qu'on va avoir. Et nous, derrière, on a toute une suite d'algorithmes qu'on va placer là-dessus qui vont faire que quand vous avez ces petits capteurs dans les oreilles, on peut, je ferai bien une démonstration, mais comme on a la radio, c'est plus difficile, mais on peut directement, en fait, de manière invisible, de manière intuitive pour l'utilisateur, lui permettre de contrôler tous les objets électroniques qui l'entourent.
C'est impressionnant.
On essaye de rendre ça impressionnant. On essaie en fait de créer ce qu'on appelle une nouvelle interface homme-machine. L'idée étant de se dire qu'on pense que ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit les téléphones, que ce soit la voix, que ce soit les interfaces tactiles, en fait sont limitantes par rapport à tout le potentiel qu'on pourrait avoir, parce que ça reste un doigt qui va appuyer sur un bouton, reste même le véhicule vocal qui reste limité par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans la tête, par rapport à tout ce qu'on peut être capable de penser, de faire d'un point de vue utilisateur. Et nous, on voudrait permettre à l'humain, en fait, de réussir à avoir un full potentiel, en tout cas une capacité complète d'interagir avec les machines qui les entourent et même potentiellement entre humains demain, en fait.
D'accord. Ça, c'est un peu l'avenir, c'est ce que vous imaginez. Vous travaillez déjà dessus?
C'est pas que notre vision. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la raison pour laquelle on est arrivé là-dessus, c'est qu'on a passé pas mal de temps à Paris, puis à San Francisco. Ouais. Et en fait, à San Francisco, vous êtes dans la Silicon Valley, avec tous les grands noms qu'on connaît. Et notamment, en fait, on joue au foot avec des gens qui travaillent chez Neuralink, donc l'entreprise d'Elon Musk. Et Neuralink, eux, leur vision, c'est de se dire que demain, dans 50 ans, on aura tous des implants cérébraux qui, justement, liront, interpréteront et transformeront nos pensées en action ou même en communication entre les humains. Et nous, on s'est dit, c'est bien 50 ans, mais c'est un peu long. Et puis, peut-être qu'on n'a pas envie de se faire ouvrir le cerveau pour pouvoir se mettre une petite puce. Et on s'est demandé ce que ça voulait dire, en fait, de créer un objet connecté du cerveau à horizon plutôt 2025 et à quoi ça ressemblerait. Et notamment, est-ce qu'il y avait une étape pour quelque chose qu'on appelle de non-invasif, donc qui ne nécessiterait pas qu'on vous ouvre le cerveau pour mettre une petite cartouche dedans.
Donc là, ça reste sur les écouteurs, en fait.
Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est qu'après, une fois que vous avez pris ce chemin-là, vous vous demandez, OK, mais donc c'est quoi l'objet connecté, en fait, de 2025? Et donc, il faut réfléchir à quels sont les objets qu'on porte au quotidien et qui vont être des objets qui vont être équipés de technologies, qu'on va porter plusieurs heures et qui vont être assez proches de notre cerveau. Vous êtes à la radio, vous le voyez bien, vous avez un casque sur les oreilles, je suppose 4, 5, 6 heures par jour. Bon, et l'avantage du casque, c'est que c'est placé très proche de votre cerveau, donc c'est potentiellement le meilleur endroit pour y placer des capteurs qui pourraient demain vous permettre, par exemple, je sais pas, de communiquer avec la régie pour leur dire là baisse le son ou augmente le son sans avoir besoin de l'utiliser ni la voix ni un signal visuel ou un contrôle sous le bureau quoi.
Et donc eux par exemple, imaginons ils le recevraient sur leur ordinateur, j'y pense très fort et en fait...
Même pas très fort, juste vous y pensez.
J'y pense. c'est impressionnant.
Donc ça serait ça l'idée. Et d'accord. En fait, on va dire que c'est un peu l'étape numéro un dans la vision long terme. Ouais. Le bon parallèle, en fait, si on veut regarder ce que nous, on cherche à faire, c'est les montres connectées ou les objets connectés qu'on porte au poignet. Si vous regardez, il y a 10 ans, les objets connectés, les montres connectées, c'était des trackers de pas. Donc en gros, ce que ça faisait, c'était juste que ça comptait à la fin de la journée si vous aviez fait beaucoup de pas ou pas, et ça vous disait si oui ou non vous étiez plus ou moins actif. Bon, c'est un premier cas d'usage qui est intéressant, mais qui n'est pas parfait ou qui ne satisfait pas 6,5 milliards ou 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Là, vous regardez les dernières montres connectées. Elles sont capables de détecter si vous faites de l'arythmie cardiaque. Elles sont capables de détecter votre sommeil. Elles sont capables de détecter certains niveaux de stress. Et donc, en fait, progressivement, on se rend compte qu'en partant d'un premier objet, d'une technologie qui, au début, avait des applications assez simples, assez, on va dire, simples pour l'utilisateur, on est arrivé à faire des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus complexes et qui aujourd'hui ont un impact et qui permettent même d'améliorer la santé et le bien-être des gens qui les portent. Bah, nous, on a un peu cette direction-là sur ce qu'on essaie de faire chez Wazir. On commence par des cas d'usage qui sont assez simples. Donc, en gros, des cas d'usage de contrôle des objets qui vous entourent. Et l'idée, c'est progressivement d'évoluer, bon, d'une part, vers des contrôles plus poussés. Donc, on parlait tout à l'heure de pensée. Donc, s'approcher le plus possible de la pensée de l'utilisateur pour la traduire en commande directement. Et même sur le long terme, en fait, s'approcher encore plus de tout ce qui est santé médicale. Et notamment, on sait, par exemple, que quand on place des électrodes dans et autour de l'oreille de l'utilisateur, il y a certaines maladies, comme par exemple Alzheimer, Parkinson, comme des crises d'épilepsie, qu'on est capable de détecter pour lesquelles on peut détecter des traces. Et donc, l'idée pour nous, c'est de s'approcher le plus possible de ça, de façon à ce que demain, bah, en fait, vous portez un écouteur avec la technologie Wazir embarquée. Non seulement ça vous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus simple de ce qui vous entoure, mais ça vous permet également, en fait, d'avoir un monitoring en continu de votre état de santé et de prévenir votre médecin si jamais il y a un problème ou autre.
Donc une partie médicale également, une partie plaisir, mais une partie médicale.
Sur le long terme. L'idée,
sur le long terme.
On sait que ça va prendre plus de temps, c'est des choses qui nécessitent beaucoup, beaucoup de données, qui nécessitent beaucoup, beaucoup de recherches.
J'imagine.
Et donc nous, on veut arriver à ce niveau-là, en fait.
Donc là, aujourd'hui, est-ce que vous vendez déjà à des clients ?
Ouais, donc c'est ça. Donc l'idée, c'est que nous, on est une équipe de gens qui viennent du monde du digital. On a passé 6 ans chez Criteo, donc une entreprise qui fait de la publicité en ligne. Ça n'a rien à voir, mais on pourra revenir après sur le passage de l'un à l'autre.
J'imagine qu'il y a des algorithmes, Ouais.
Exactement. En gros, c'est reste une entreprise qui fait beaucoup d'IA. C'est un peu là-dessus que notre expertise se base aujourd'hui. Et puis, en parallèle de ça, mon associé a fait un master en neurotechnologie. Donc, c'est un secteur que lui connaît bien depuis.
Parce que vous êtes deux à la base à avoir fondé Wazir.
Absolument. On est deux. On a bossé donc 6 ans chez Criteo. Lui, il était côté data science, data scientist. Et moi, j'étais côté product management.
D'accord.
Donc, une bonne team. Et donc, en gros. Alors, je me reviens. Oui, très bien. Ouais. Pourquoi on a fait ça?
C'est un petit
bouton dans le digital. Ouais. Et en fait, en gros, quand on s'est posé la question de ce qu'on voulait développer, il y a plusieurs approches. En fait, il y a une approche B2C, quoi, où on se dit, on va non seulement créer l'écouteur connecté qui mesure votre cerveau, mais on va aussi le vendre, le marketer, créer tout l'objet physique qui va autour, toute la démarche. Et en fait, ça, c'est pas vraiment notre expertise. Nous, on n'est pas là d'où on vient et c'est pas le secteur qu'on maîtrise. Nous, vraiment, notre expertise, c'est les algorithmes, c'est le traitement du signal, c'est la capacité, en fait, en gros, à être capable de développer une technologie vraiment de pointe. Et donc, on s'est dit, le plus simple, si on veut réussir à atteindre notre objectif et à arriver à notre vision, en fait, c'est non pas de développer l'objet nous-mêmes, mais c'est bien, en fait, de licencier, de vendre la technologie à des fabricants. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, puisque c'était une longue parabole, on a effectivement quelques clients qu'on a signés, pour l'instant, sur des contrats de prototypage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que nous, on leur présente notre technologie sur des modules que nous, on a développés en interne, qui restent assez grossiers, avec des fils et autres. Ouais. Et eux nous disent, c'est intéressant, c'est cool, mais moi, j'aimerais bien que vous me montriez que ça marche sur mes produits à moi, quoi. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un contrat de prototypage qui dure 3 à 6 mois, où globalement, le client nous dit, moi, je veux que ça marche sur tel modèle, je veux qu'il y ait telle contrainte sur la batterie, sur la taille, sur la forme, sur tout un tas de choses. Et nous, on fait, très bien, on travaille dessus, et on leur montre à la fin que même avec leurs contraintes, on arrive à faire fonctionner la technologie. Et donc, c'est pas...
Et vous travaillez sur des écouteurs sans fil ou avec fil ou les deux ?
Ouais, on est assez agnostique. Dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'audio est de plus en plus dominé par les écouteurs sans fil.
Ouais.
C'est un marché qui fait plus 100% de croissance d'une année sur l'autre. C'est un marché où, en gros, on voit qu'à horizon 2025, ça va faire 25 milliards de dollars, 22 milliards d'euros. Donc, en vrai, c'est vraiment un marché en forte croissance. Tous les fabricants audio à qui on parle sont en train de se concentrer.
Focus là-dessus.
Exactement. Donc ça, c'est sûr qu'il faut réussir à craquer ce problème-là. Maintenant, nous, on travaille aussi sur des casques, notamment pour la partie gaming, où en fait, en gros, les joueurs aujourd'hui... en fait, on n'a pas assez regardé le cas d'usage radio, peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Peut-être, oui, c'est vrai.
Enfin, je regarde. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le gaming...
Vous reviendrez.
D'accord, avec plaisir, on pourra faire un test après l'émission. Mais du coup, dans le gaming, par exemple, on voit que les joueurs, en fait, ont les mains prises. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un bouton à aller appuyer pour faire play ou pause sur...
C'est sûr, ouais. Vous parlez à une gameuse.
Ah, très bien. Vous jouez à quoi?
Je joue sur la PlayStation.
Ok, très bien.
PlayStation, Call of, voilà.
Parfait. On se verra peut-être sur Warzone, alors, du coup.
Ouais,
je passe beaucoup
peut-être.
De temps Et l'autre cas d'usage qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est que on a été contacté en fait par des fabricants de talkie-walkie, notamment Motorola Solutions, qui en gros, bah, eux nous ont dit, bah ouais, c'est hyper intéressant parce que nous, depuis toutes ces années, on essaye en fait d'enlever le bouton sur un talkie-walkie pour pouvoir ouvrir ou fermer la communication.
Ouais.
Et on veut que les soldats, les pompiers, les gens qui sont dans des usines ou autres puissent en fait garder les mains sur l'objet qu'ils doivent utiliser et n'aient pas besoin d'avoir appuyé sur un bouton pour ouvrir une communication. Et donc, en gros, on se rend compte au fur et à mesure, plus on avance, qu'en fait, bah, les écouteurs sans fil, c'est la première direction parce que c'est la direction grand public, c'est là où il y a le plus de revenus à faire, mais qu'en fait, la technologie peut être utilisée à plein d'endroits différents.
Ouais, c'est la première étape, en fait.
C'est ça, absolument.
Donc là, vos clients, c'est des clients internationaux, j'imagine. Est-ce que c'est des Américains? Est-ce que, bon, sans vous demander de les citer, hein, mais c'est alors, quel genre de clients?
Alors malheureusement, on n'a pas le droit de les citer parce que pour la majorité d'entre eux, on est sous accord de confidentialité.
Donc, bien sûr, j'imagine.
Effectivement, on parle de clients internationaux. En fait, on vise tous les fabricants d'écouteurs sans fil qui ne sont pas Apple et qui ne sont pas tous les minuscules fabricants. Donc en gros, tous les grands.
Intermédiaires, en fait.
Ouais, en gros,
oui, parce qu'Apple, j'imagine, a déjà ses services de développement interne.
Absolument. Apple a une philosophie très particulière, c'est-à-dire qu'il ne licencie pas ou très très peu de technologies extérieures. Et dès que c'est une technologie en fait assez critique pour le fonctionnement de leurs produits, ils vont soit la recréer en interne, soit en fait la racheter.
La racheter, oui.
Absolument.
Et ça, c'est quelque chose que vous prévoyez, que vous envisagez, peut-être être...
Le rachat?
Bah, pas forcément, mais être contacté par Apple, déjà, dans un premier temps, ou être espionné.
J'espère qu'ils vont voir ce podcast, ou l'écouter, en tout cas.
Peut-être.
Non, espionné, je sais pas, je pense pas qu'on en soit à ce niveau-là de réputation ou de développement encore, mais le rachat, s'il se présente, on y réfléchira. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est toute la vision qui nous intéresse, on a pas quitté notre taf. Je veux dire, on est parti d'un travail... dans la pub où on était bien payé à San Francisco et on l'a pas quitté juste pour se dire on va créer une boîte pour se faire racheter 2 ans plus tard
bien
et
sûr.
Ensuite voilà, donc on a une vision, on va
vous
essayer
y tenez quand même à cette boîte,
absolument, on va essayer de la pousser le plus loin possible. Après voilà, au fur et à mesure de la vie d'une boîte, certains événements, certaines opportunités peuvent se présenter et nous on les saisira s'il faut les saisir quoi.
Oui. Puis vous êtes deux, je pense que il y a aussi une, enfin vous n'êtes pas tout seul à décider, faut en discuter. Du coup vous viviez à San Francisco, ça dirait combien de temps cette expérience là-bas
Ça a duré 4 ans, 5 ans, 5 ans, ouais, c'est ça à peu près.
Okay. Ouais. Et du coup, votre cofondateur, vous l'avez rencontré là-bas?
Alors, j'ai rencontré à Paris. En fait, on a tous les deux commencé à Paris. Après, moi, je suis parti dans un premier temps à San Francisco. Et lui, il est arrivé un an et demi après.
Moi, j'ai Criteo, en fait, c'est
J'ai Criteo, toujours, absolument. Et en fait, en gros, le bureau était à l'époque assez petit là-bas. Et du coup, nous, on a travaillé avec les gens sur place pour, en fait, progressivement faire grandir des produits là-bas. Et ça s'est bien passé. Il y a 2 produits qu'on a lancés qui ont bien marché. Notamment, on travaillait beaucoup sur Facebook. Donc, on allait assez souvent... voir les personnes de chez Facebook à Menlo Park. Et voilà, c'est des produits qu'on a fait grossir de 0 à 100 millions de revenus par an en un an et demi, qu'on a scalé à 8000 clients. Et donc en fait, c'était un peu aussi pour nous le baptême du feu, dans le sens où, vu qu'on travaille ensemble, on s'est dit, bon, bah, si on arrive à faire marcher des produits chez Criteo en travaillant ensemble, bah, si on monte une start-up à côté, normalement, on devrait réussir à faire quelque chose qui marche pas trop mal, quoi.
Autant lancer notre propre produit.
Exactement, exactement.
Et comment vous est venue cette idée? Parce que vous êtes passé là d'une IA en ligne, dans la publicité. Comment vous êtes passé à les écouteurs, lire les pensées? Bon, je vais un peu vite, mais...
Non, mais c'est une bonne question. Ouais. Ça, c'est une question qu'on
a... Enfin, quoi que ça, ça se rapproche un peu. Hein.
Alors, si Criteo commence à lire vos pensées, vous n'êtes pas bien, à mon avis. Hein.
Mais honnêtement, c'est ce dont on a la pression. Hein. Quand on parle d'un sujet, sur notre smartphone, on est sur n'importe quelle appli, on voit une pub concernant ce sujet. On parle de nourriture pour chat, on voit des pubs de nourriture pour chat. C'est assez impressionnant, quand même.
Non, c'est vrai. Il y a des choses qui sont assez étranges et proches de la coïncidence. On pourra rentrer dans le détail après de comment ça marche. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit écouté sur nos téléphones, quoi qu'on en dise, et je ne pense pas non plus qu'il y ait de plus 5G dans les vaccins. Voilà, ça c'est ma petite opinion publique.
Oui, c'est les complots qu'on voit en ce moment sur Internet. Donc on n'est pas écouté sur nos téléphones. Moi, j'ai entendu ça, c'est marrant, il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai entendu plusieurs fois. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'on nous écoute en fait sur les téléphones, que des applis nous écoutent. Alors en revanche, il y a des applis qui captent les choses du téléphone. Ça c'est vrai.
Oui, bien sûr. Alors complètement. On capte, c'est votre navigation, c'est vos points de contact sur le téléphone, mais on vous écoute pas. Et en fait, si on vous écoutait, on le saurait déjà quoi.
D'accord.
Mais bon, ça, pour revenir sur du coup la partie d'avant, comment on en arrive à cette idée-là. Donc en fait, on a passé 5 ans chez Criteo. D'un point de vue technologique, c'était hyper bien. Vraiment, on a appris plein de choses.
Surtout à San Francisco.
En plus, mais même en fait, quand on parle de big data et d'IA aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui font vraiment du big data et de l'IA, à part les entreprises qui font de la publicité en ligne, à part les entreprises qui font potentiellement de la voiture autonome, et il y en a une troisième que j'oublie. Ah oui, c'est tout ce qui est relié aux réseaux sociaux et aussi aux cartes, enfin tous les Google Maps, les Apple Maps,
d'accord, etc.
Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, c'est les seuls endroits, en fait, les seuls endroits de votre téléphone ou de votre navigation ou votre vie digitale où vous allez partager autant de données. Pour donner des petits exemples, hein, chez Criteo, on recevait plus de 50 milliards à l'époque, hein, donc ça a dû augmenter depuis, plus de 50 milliards de demandes d'affichage de pubs par jour. On traquait 4 milliards d'activités utilisateurs. Donc on est vraiment sur des volumes qui sont incroyables. Bon, donc du coup, quand on parle de faire de l'IA et de la big data, en fait, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font vraiment ça. Et Criteo fait partie des boîtes où on faisait ça. Et donc nous, on a passé 5 ans à faire ça. Et d'un point de vue vraiment, on a appris énormément d'un point de vue technologique, on a appris énormément d'un point de vue technique et autres, mais d'un point de vue commercial, compréhension du besoin client et autres. Sauf qu'au bout de 5 ans, bon bah en fait, travailler tous les jours pour savoir comment je vais faire pour mieux faire cliquer quelqu'un ou mieux faire acheter quelqu'un, on atteint un peu une limite en fait dans l'objectif du travail de ce que nous faisons. Et donc on s'est dit, bon bah en fait, on a envie de faire quelque chose où l'objectif final est un peu plus utilitaire pour l'utilisateur final que juste en gros lui faire acheter plus de choses et le faire cliquer plus sur des pubs. Et donc on a passé en fait quasiment un an à se poser toutes les deux semaines. On allait prendre une bière et puis on prenait des grandes industries et puis on se pitchait des idées de boîtes. Donc en gros, on prenait le sport, l'éducation, la santé, je sais pas, tout un tas de trucs. J'ai même plus tous les sujets qu'on avait couverts, l'agriculture. Et on essayait de se pitcher. C'est vaste. Vraiment, l'idée c'était de se dire, on va monter une startup dans tous les cas, mais maintenant on va réfléchir à c'est quoi cette startup-là, quoi. Et donc on a passé pratiquement un an à faire ça. Et puis en fait, assez régulièrement quand même, le digital, le sujet des objets connectés, donc moi j'étais fan, et puis le sujet du cerveau, dont mon associé était lui assez proche puisqu'il l'avait étudié à l'époque, revenait sur la table. Et puis il y a eu ce gars de Neuralink avec qui on joue au foot, avec qui on a parlé pendant un petit bout de temps, qui nous a présenté toute l'équipe Neuralink. Et puis on est sorti de ça, on s'est dit bon, en vrai, si on veut faire un truc qui vraiment peut être game changer et qui vraiment nous amuse, nous intéresse, et puis où il y a une vision qui est vraiment positive, on pense que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et donc on a commencé à ce moment-là, on a fait nos premiers prototypes étaient assez horribles. En fait, c'était moi qui prenais des boules caisses et sur lesquelles je venais coller une espèce de vieux tissu conducteur, je soudais ça à la main, je me mettais ça dans l'oreille.
Ah oui, c'était vraiment fait au fond du garage.
Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, au fond du garage, on avait un appartement quand même parce que voilà, mais
j'imagine.
On n'avait pas assez d'argent pour avoir et un garage et un appartement. mais donc on a fait ça dans l'appart. Mais ouais, donc du coup, c'était assez fun parce que on essayait de reproduire ce que les papiers de recherche qui avaient été développés sur les 10 dernières années en gros avait réussi à faire. Et donc en fait, ces boules caisses avec du tissu conducteur qu'on se mettait dans l'oreille en espérant qu'on allait pas s'électrocuter, c'était un peu le début de l'aventure, quoi. Et donc on est parti là-dessus, et puis progressivement on a réussi à se rendre compte qu'on arrivait à mesurer des choses, qu'on a réussi à avoir des choses au niveau de l'activité électrique du cerveau et des muscles des gens.
Et ça, vous vivez, c'était à côté toujours de votre travail aux États-Unis.
Ouais, alors ça, ouais, faut pas le dire, hein, du coup, mais on a fait ça, on faisait ça le week-end souvent, pendant 3-4 mois.
Sur votre temps libre, quoi.
Ouais, exactement. L'idée c'était de se dire en fait qu'on voulait vérifier qu'il y avait quelque chose
à creuser.
Exactement. Et en fait, au partir du moment où on a commencé à avoir des premiers résultats positifs, qu'on a réussi à avoir des premiers meetings avec des clients, on s'est dit, bon, bah là, on y va, quoi. On fonce et puis on voit ce qui se passe, quoi.
Et du coup, vous avez quitté votre travail à ce moment-là?
Yes. On a quitté ça fin 2019, en octobre, et puis on est rentré à Paris à ce moment-là. Parce que, en fait.
Pile avant le confinement, en plus.
Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Bah, du coup, le confinement, c'était pas mal pour nous parce que on n'avait pas rien d'autre à faire que de bosser sur la startup.
Ça vous a permis de développer tout, le bébé, en fait.
Exactement. Et c'est ça. Et en fait, du coup, on est rentré à Paris parce que ça coûte moins cher de lancer une startup en France, parce que il y a beaucoup d'aide publique et parce que mine de rien, en fait, les réseaux de nos écoles sont aussi beaucoup en France.
Ouais.
Et voilà. Et puis on a commencé l'aventure.
C'est quelles écoles, du coup?
Alors Alain a fait Supélec et moi j'ai fait l'ESSEC.
D'accord. Quand vous étiez aux États-Unis avant de lancer ce produit, ce bébé, vous aviez fait, j'imagine, des benchmarks. Il y a d'autres personnes qui font ça ou pas?
Ouais, en fait, en gros, encore une fois, ça serait pas très rassurant s'il y avait pas une boîte qui bossait là-dessus déjà, mais en fait, il y a deux types d'acteurs aujourd'hui qu'on a pu isoler. Il y a beaucoup de boîtes qui font de la neurotechnologie. Il y en a plein, il y en a énormément sur le marché. Il y a des boîtes comme Neurosky, il y a des boîtes comme en France, on a Dream, peut-être que vous connaissez.
Oui, j'ai entendu parler, ouais.
Et en fait, en gros, toutes ces boîtes-là, il y a Neurable, il y a MyBrain, enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et en fait, toutes ces boîtes-là, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles faisaient deux choses qui, à notre sens, sont pas la bonne façon de réussir. La première chose qu'elles faisaient, c'est qu'elles créaient elles-mêmes leurs produits. Donc en gros, on en revient à tout à ce qu'on disait tout à l'heure, mais lancer son propre objet physique, lancer sa propre marque...
Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait quand on est une start-up, et en plus sur un sujet où il y a une technologie extrêmement compliquée à développer, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à développer, et ça demande beaucoup, beaucoup de capital. Et en fait, en gros, quand on est une start-up, c'est pas ce qu'on a de plus, le capital.
Puis il y a surtout des gros monstres en face, enfin,
exactement.
Apple...
Exactement, et ça c'est le deuxième point, c'est que si on regarde le marché de l'audio aujourd'hui, bah, le marché de l'audio depuis 15 ans, à part Beats, qui s'est fait racheter par Apple, il n'y a pas eu une nouvelle tête qui est apparue. C'est toujours les mêmes, c'est les Samsung, c'est les Bose, c'est les Sennheiser, etc. Et donc du coup, nous on a regardé ça, on s'est dit, bon bah, on pense pas que créer sa propre marque, ça soit la bonne façon de faire. Donc en fait, on pense que les marques de neurotechnologie qui ont développé leur propre produit aujourd'hui, la raison pour laquelle ça explose pas encore, c'est parce que bah, ce qu'elles essaient de faire, c'est trop compliqué, elles essaient de résoudre trop de problèmes en même temps. Et l'autre type d'acteur qu'on a pu observer, qui nous a conforté sur notre business model, c'est en fait des acteurs comme Valencel et First Beat, que personne ne connaît, c'est normal. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez tous les mondes connectés, à part Apple, le logiciel qui va être dedans, qui va permettre de faire l'analyse de l'activité cardiaque et de votre sommeil et autres, ça va être fourni par une entreprise extérieure. Donc en gros, Samsung, Huawei, Bose, etc., dans leurs objets connectés qui mesurent l'activité cardiaque, en fait, le logiciel qui est dedans, c'est deux boîtes principales qui le font. C'est First Beat et c'est Valencel.
D'accord.
Et First Beat, ils ont même été rachetés d'ailleurs par Garmin il y a un an, justement parce que Garmin voulait que First Beat arrête de licencier.
Arrête à tout le monde.
Exactement. Et donc du coup, ça nous a conforté en se disant, bah, en fait, c'est ouf parce que les grands fabricants d'électronique, ils licencient des technologies pour la mesure de biométrique. Les marques qui font de la neurotechnologie aujourd'hui, elles sont concentrées sur leur propre marque.
Bien
et
sûr.
Donc du coup, elles n'arrivent pas à rayonner et avoir le rayonnement qu'il faudrait pour faire exploser cette technologie. Donc nous, en fait, on va prendre un peu le meilleur des deux mondes, quoi. On va faire la première solution de mesure de l'activité cérébrale et musculaire faciale qui se vend sous licence à n'importe quel fabricant d'objets électroniques.
Donc aujourd'hui, vous êtes les seuls à faire ça.
Bah, en tout cas, on n'a pas vu
les
seuls connus. En tout cas, les seuls que nous on connaît et qui ont exactement cette approche 100% software. Ouais.
D'accord. Donc les prochaines étapes. Donc vous le disiez tout à l'heure, ce que vous avez envie de faire concrètement là, ouais. À court et moyen terme, comment ça va se passer pour vous dans les mois à venir?
Donc là, en gros, on a déjà signé, comme je disais tout à l'heure, un contrat de prototypage qui nous a amené 125 000 euros de revenus.
Ouais.
J'ai réussi à obtenir jusqu'à 500 000 euros déjà, en financement. Là, on est en train de closer un tour de seed de 1 million d'euros.
D'accord.
Donc l'idée, c'est maintenant en fait de passer de l'étape un peu prototypage où on est actuellement à une étape vraiment industrialisation. Et donc pour ça, on a besoin de recruter quelques autres personnes en interne. Et donc en fait, notre prochaine étape là, c'est de convertir ce premier client qu'on a signé en contrat de prototypage en contrat de licence. Et l'objectif, c'est, si tout se passe bien et qu'on arrive à avancer comme on le veut, d'avoir en fait les premiers écouteurs équipés de la technologie Wizer sur le marché à horizon mi-2023.
Donc ça, d'accord, donc c'est assez vite en fait, ce sera assez rapide.
C'est l'objectif, voilà, on va faire en sorte que ça avance. Nous, on n'aime pas trop stagner de toute façon avec Alain, donc mon associé.
Vous avez besoin d'avancer, d'avoir des objectifs.
Bah, disons que si on n'avance pas, en fait, quand on est une startup, on est mort parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent sur le compte. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes assez fortes à respecter, quoi. Mais ouais, non, dans tous les cas, on a envie que ça bouge vite. Et puis, il y a un vrai avantage à être le premier sur le marché. Puisque, bah, en fait, si on est le premier sur le marché, on est le premier à accéder au volume de données, à un large pool de données qui va permettre ensuite derrière de garder l'avantage sur la compétition. Et donc, ça, c'est ce que nous, on a vocation à faire.
Alors, aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs?
On est sept. Et là, l'objectif, c'est d'être 15 à horizon fin d'année.
D'accord. Et là, vous parlez des recrutements, ça va être quel type de profil?
Ouais, on va recruter donc principalement s'il y a des software engineers qui nous écoutent. En gros, on a une équipe qui a beaucoup, beaucoup de data scientists aujourd'hui, donc principalement des gens qui développent des algorithmes d'intelligence artificielle. Et là, en fait, on a besoin de gens pour nous aider à intégrer ça dans une vraie structure de production. Donc, en gros, il nous faut un ingénieur full stack, il nous faut un ingénieur, ce qu'on appelle logiciel embarqué. Donc, en gros, c'est le code qui va tourner directement sur l'écouteur pour faire fonctionner l'algorithme. On va aussi recruter un autre data scientist pour travailler avec nous. Et ensuite, quelqu'un qui va travailler avec moi côté commercial aussi.
Et qui s'occupe du recrutement? C'est vous et
Alain? Pour l'instant, c'est mon associé et moi-même, chacun sur la partie du business qui est la nôtre. Mais ouais.
Le recrutement, je vais y arriver, c'est compliqué ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas?
Bah, alors, aujourd'hui, on a enfin, on a été assez chanceux, je pense. On n'a pas eu trop de soucis, pour être honnête. On a eu beaucoup de gens passionnés qui se sont présentés. Je pense que l'intérêt d'avoir un sujet comme ça, un peu à la marge, en tout cas un peu différent d'un SaaS B2B, sans être insultant vis-à-vis des SaaS B2B, hein. Mais en gros, c'est que justement...
Ça donne envie.
En tout cas, nous, ça donne envie. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, ça change un peu des autres offres du marché. Et donc, on a eu la chance sur les premiers postes qu'on a recrutés d'avoir d'avoir des gens assez motivés qui venaient. Ça me fait peur dans le sens où l'idée c'est quand même de passer le minimum de temps dessus pour pouvoir le plus rapidement possible avoir des gens qui vous rejoignent et qui permettent d'accélérer la croissance de la boîte. Mais comme aujourd'hui on n'a pas eu trop de problèmes là-dessus, j'espère que ça va continuer dans cette voie-là, quoi.
Et vous recrutez où? À Paris, essentiellement. Vos locaux sont à Paris?
Ouais, alors on recrute principalement à Paris pour l'équipe ingénieur. Moi je passe pas mal de temps entre Paris et New York, en fait.
Ouais.
Parce que on parlait du business tout à l'heure, en fait les clients, la répartition des clients c'est un tiers US, un tiers Europe et un tiers en Asie, sauf qu'en Chine, enfin principalement en Chine en fait, sauf qu'en Chine en ce moment on peut pas encore y aller, donc oui. Du coup je passe surtout du temps entre Paris et les États-Unis, et donc du coup pour l'équipe ingénieur c'est dans tous les cas à Paris, puisqu'on a encore besoin d'avoir des gens qui sont majoritairement bureau, qui puissent se voir, notamment pour pouvoir itérer sur les prototypes et tout. Pour la partie commerciale, on n'a pas encore entièrement fixé le lieu de recrutement.
D'accord.
Donc voilà.
Il y aura du télétravail ou pas?
En fait, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pour être honnête, le désavantage d'avoir un produit physique comme le nôtre, enfin, même si jamais c'est pas un produit physique, on vend une licence, un logiciel, mais il y a quand même nécessité d'avoir beaucoup d'itérations sur le prototype, de le tester, d'enregistrer de la donnée. C'est qu'en fait, il faut être au travail, au bureau, ensemble, pour pouvoir faire plein d'itérations sur le produit, quoi, assez régulièrement. On n'interdit pas du tout le télétravail, mais on peut pas être 100% remote comme certaines boîtes qui le sont passées pendant le confinement, parce que il y a une nécessité, de venir de temps en temps, de synchroniser avec l'équipe, de faire des tests manuels sur ce qu'on est en train de développer.
D'accord. Donc là, l'Asie, ce sera pour quand peut-être dans les mois à venir, quand les restrictions seront un peu plus...
J'espère. Déjà voyager, a priori, voyager pour rencontrer les clients de visu. Ça, je pense que ça fait une différence. En fait, c'était que je suis un peu trop old school là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup... mis en avant tous les outils comme Zoom, Teams, etc. pendant le confinement, en disant que oui, c'est très bien, ça pouvait quasiment remplacer le travail physique qu'on avait l'habitude d'avoir avant. Dans les faits, et moi je le vois vraiment à titre personnel sur les relations commerciales qu'on est en train d'engager avec les clients, c'est très bien en outil de suivi. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déjà rencontré la personne en physique, que vous avez déjà échangé, c'est très bien. Pour un premier contact et pour une première vente, ça reste très difficile, surtout pour un produit comme le nôtre qui nécessite du toucher, de laisser, de voir comment ça marche, etc. Ça reste très difficile en fait de convaincre quelqu'un de signer avec vous.
C'est ça, des clients à convaincre. Exactement. Juste en vidéo, c'est un peu compliqué, ouais.
Exactement.
Ouais. Et puis peut-être qu'en Asie, ils sont un peu plus réticents, peut-être par rapport aux Européens ou...
C'est pas le sentiment qu'on a eu forcément. Ouais. Le premier client qu'on a signé est asiatique, donc c'était pas forcément le problème qu'on a eu. Mais ce qu'on voit vraiment, par contre, c'est que ça va beaucoup plus vite. Là, depuis qu'on s'est déconfiné, on a fait pas mal de voyages en Europe. Et là, je vais à Seattle la semaine prochaine pour voir un client. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça va beaucoup plus vite.
Ouais.
Quand on rencontre les clients physiques pour faire avancer le projet, pour discuter du contrat,
forcément.
Pour discuter. Exactement. L'idée, c'est à défaut, dans tous les cas, de continuer à voyager un peu partout. Profitons-en avant le Covid-23 ou je sais pas quoi. Prendre tous les contacts qu'on peut. Et puis, ensuite, derrière, s'il faut faire du suivi par Zoom, on le fera. Mais donc, je pense que dans tous les cas, à moyen terme, il faudra qu'on ait des présences un peu partout là où sont nos clients, quoi.
Et les contacts en Asie, par exemple, vous les avez eu comment? Grâce à votre ancien job ou...
Alors pas tant que ça. On a des amis qui ont des business similaires qui nous ont beaucoup aidés. Je peux lui passer un petit big up, Vincent Nalatambi de chez Tempo, que je pourrais vous envoyer d'ailleurs aussi.
Avec plaisir.
Quelqu'un de très très intéressant, très très smart, qui nous a beaucoup aidé sur même comprendre la physionomie des acteurs de l'audio, à qui il faut parler, comment il faut leur parler, qu'est-ce qu'il faut contacter, et qui nous a fait beaucoup d'introductions. Donc en fait, les introductions, ça reste la clé globalement.
Bien sûr.
D'avoir quelqu'un qui peut vous introduire auprès de la bonne personne dans l'entreprise, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit, ça reste la clé numéro un. Si vous pouvez pas trouver d'introduction, la deuxième étape, c'est LinkedIn. Hein. LinkedIn, ça reste aujourd'hui un peu l'outil de prédilection pour trouver les bonnes personnes à qui parler, faire de l'outreach, trouver les bonnes personnes à qui parler, et puis ensuite faire un petit mail bien formaté et bien crafté pour dire bonjour XXX, je vois que vous êtes directeur ingénieur de l'audio à telle boîte, on a un produit génial pour votre produit écouteurs sans fil, blablabla, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, dans la majorité des cas, on a au moins réussi à avoir un premier call avec tous les gros acteurs du secteur. Et donc, du coup, maintenant, la suite, c'est comment on fait une fois qu'on a le premier call pour
enclencher le premier rendez-vous, en fait.
Exactement, exactement.
Et la démo.
Exactement. Donc, c'est ça. Et la démo, voilà, on en revient au fait qu'il faut pouvoir continuer à voyager pour que les gens puissent tester le produit dans leurs oreilles et voir ce que ça fait, en fait, et voir si ça les intéresse ou pas, quoi.
Et ça dure combien de temps, un rendez-vous de démo?
Ça dépend si la démo elle marche ou pas. Mais en gros, non, la démo marche toujours, bien sûr. En gros, un rendez-vous de démo, ça dure 1h30 à 2h. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ça, c'est un process que je découvre au fur et à mesure. Hein, mais il y a deux choses. Il y a la démo en tant que telle et il y a l'histoire qu'on raconte autour de la démo.
Ouais. Et en fait, qui est différente selon les clients.
Bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que c'est comme vous, non? C'est-à-dire que quand vous recevez quelqu'un en studio, vous commencez à parler et puis vous voyez en fait ce qui marche.
On voit où on peut creuser, en fait.
Exactement. Bah donc là, c'est un peu pareil, en fait. Donc vous commencez à présenter votre histoire et puis vous voyez en fait un peu là où ça mord. Ah bah très bien. Ah d'accord, donc c'est plutôt ça qui vous intéresse, c'est plutôt la santé. D'accord, bah je vais essayer d'orienter mon pitch sur la santé. Ah bah c'est plutôt, d'accord, le gaming. Ok, très bien, on va travailler un peu sur le gaming, etc. Et donc en fait, du coup, ça c'est important parce que si on fait juste la démo sans donner un peu le contexte, l'histoire et ce qu'on peut faire avec, bah on n'arrive pas derrière du tout à enchaîner sur le parti vraiment commercial et à créer la connexion qu'il faut pour pouvoir ensuite faire des appels sur Zoom et Teams et que ça se passe bien, quoi. Et donc du coup, c'est 1h30 à 2h et en général, il va y avoir 1/2-3/4 heures de présentation. On va essayer de laisser parler le client le plus possible. Parce qu'en fait l'idée c'est qu'on veut comprendre leurs problématiques à eux,
oui,
comme vous faites là, moi je parle beaucoup. On veut comprendre ces problématiques, on veut comprendre ce qu'ils essaient de faire et puis on adapte ensuite le pitch par rapport à ça. Et une fois qu'on a dit ça, en fait ensuite on le fait tester le produit, on lui fait mettre les écouteurs, on lui montre que bah, voilà, quand il fait sa double pression de la mâchoire, parce que ça je l'ai pas dit mais c'est ça le premier mouvement qu'on a, c'est une double pression de la mâchoire, donc personne ne va le voir mais je vous le fais à vous comme ça,
ouais.
Donc c'est invisible, hein, ça se voit pas, c'est voiceless, c'est touchless. Et en fait, il voit que quand il fait ça, bah, il peut se projeter sur qu'est-ce que ça pourrait contrôler dans son écosystème à lui. Il voit que ça marche, et donc du coup, ça lui permet d'être rassuré sur la faisabilité de la technologie et donc de vouloir avancer avec nous sur la suite du processus, quoi. Et après, derrière, si tout se passe bien, bah, du coup, on va déjeuner avec le client et puis ensuite, on rentre à la maison, quoi.
Et on espère signer.
Après, ah oui, il y a encore une étape, mais après, effectivement, après, on espère que le client nous dise, ah bah, ça m'intéresse vraiment, mets tout en place, un projet, ensuite, on fait le pricing du projet, et ensuite, on signe et là, on commence.
D'accord. Bon, bah merci infiniment pour toutes ces explications et puis c'est un domaine très très intéressant. Ouais. On a hâte de continuer à suivre votre actualité. Peut-être on se reverra sur ce plateau l'année prochaine pour voir où vous en êtes. Wiseear, donc, et merci Yacine Achiak, donc cofondateur et CEO.
Ouais.
Et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.